France Inter, il est 18h. Bonsoir Fabienne Saintès.
Bonsoir Charline et les amis. À demain, pour nous c'est parti. Le 18-20 de France Inter est ouvert. Installez-vous et soyez les bienvenus sur la planète et sa banlieue. Le 18-20 commence comme chaque soir avec ce que vous devez retenir de cette journée du lundi 6 décembre avec le journal de Sébastien Legénie. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
L'essentiel commence ce soir par un protocole renforcé.
Le protocole sanitaire dans les écoles pour faire face à la cinquième vague du Covid-19. Les enfants devront désormais porter le masque à l'intérieur et à l'extérieur. Principale décision aujourd'hui du Conseil de défense sanitaire. Pour le reste, pas de nouvelles mesures mais surtout des incitations. On y revient au début de journal. Le meeting d'Éric Zemmour dans le collimateur de la justice, une enquête ouverte pour violence. Lui est dans le collimateur d'Éric Zemmour. Emmanuel Macron, impassible face aux attaques, il part demain en déplacement dans le Cher et l'Allier pour parler vie quotidienne. Analyse du service politique à suivre. À suivre également le pape qui s'exprime sur le départ de l'archevêque de Paris la semaine dernière, victime de commérages. Selon François, on l'entendra. 10 ans après les Américains, les Européens se lancent dans un lanceur de fusée réutilisable. Et puis pour finir, peut-être bientôt un remède contre l'herpès des 18 explications en fin de journal.
À 18h15, un jour dans le monde. Demain, Joe Biden et Vladimir Poutine doivent s'entretenir, notamment de l'Ukraine et des plus de 175 000 soldats russes massés aux frontières du Donbass. Des bruits de bottes, comme on dit, qui inquiètent, interrogent aussi sur les intentions du président russe dans une guerre qui ne dit pas son nom. À 19h20, c'est le téléphone sonne avec la sortie du Conseil sanitaire ce soir. Vous l'avez entendu, renforcement des protocoles sanitaires dans les écoles, pas de vaccination des enfants, ou pas encore, en tout cas, on verra bien. Tout cela reste sur la table. Si ce n'est reste sur la table. On en saura plus avec le Premier ministre et le ministre de la Santé juste à leur sortie. Vos questions à vous, c'est au 01 45 24 7000.
France Inter.
Voilà, d'ici là, on a le temps de remettre tout ça dans l'ordre. Le Premier ministre doit donc s'exprimer dans une heure, Sébastien.
Conférence de presse de Jean Castex, en effet, avec à ses côtés Olivier Véran, le ministre de la Santé, pour faire le point sur les nouvelles mesures anti-Covid. 40 000 contaminations en moyenne par jour, 2 000 hospitalisations en soins critiques. La situation sanitaire n'est pas bonne. Bonsoir Maxence Lambrecq.
Bonsoir.
Et pourtant, pas de nouvelles restrictions majeures à attendre.
Bon, ça a tout l'air d'un dernier avertissement avant sanction. La solennité de la conférence de presse, la présence du Premier ministre pour rappeler à l'ordre les Français, vaccinez-vous et portez le masque si vous voulez un Noël en liberté. Le port du masque, d'ailleurs, ce sera l'annonce principale. Il va redevenir obligatoire dans les cours de récréation. Le protocole sanitaire va passer au niveau 3 dans l'éducation nationale. Port du masque en intérieur et extérieur pour les élèves et le personnel. Limitation du brassage des élèves à la cantine notamment et à l'intérieur dans les gymnases. Activités sportives de basse intensité. Pourquoi ? Parce que le taux d'incidence explose chez les enfants et que le gouvernement renonce à la fermeture anticipée des écoles. Ce qu'a décidé la Belgique, non, les vacances de Noël démarreront comme prévu le 17 décembre au soir en France. Pour le reste, le ministère de la Santé a poussé pour le retour d'une ou deux journées de télétravail obligatoire. On devrait en rester à l'incitation, tout comme les jauges dans les grands établissements ou au restaurant. Pas de nouvelles contraintes, mais un appel à la prudence et l'assurance que dans les jours à venir, de nouveaux centres de vaccination rouvriront, une dizaine dans la capitale par exemple, pour assurer la dose de rappel déjà reçue par 10 millions de Français.
Le protocole renforcé à l'école, les incitations au télétravail, la vaccination, on en reparle au téléphone sonne après le journal de 19h. C'est donc la vaccination qui reste l'arme maîtresse pour le gouvernement face à la remontée de l'épidémie. Le gouvernement qui table sur le retour, on l'entendait, des vaccinodromes. 300 au total doivent ouvrir leurs portes dans les prochains jours. Certains ne se sont jamais arrêtés, mais repartent à plein régime. C'est le cas du vaccinodrome de Lyon, dans le palais des sports de Gerland. Il reprend depuis ce matin à un rythme très intense, 2000 injections par jour. C'est le reportage de Mathilde Imberti.
Au plus bas en septembre, le vaccinodrome est tombé à 700 injections par jour. Depuis ce matin, 8h, il a rebasculé vers une cadence intense, 2000 injections quotidiennes et ce 6 jours sur 7, les infirmières libérales comme Dalia Boulaya ont été sollicitées pour assurer plus d'heures.
Lier le pass sanitaire avec la troisième dose, c'est ce qui a donné le coup de boost en fait. On a augmenté les effectifs infirmiers, on était à 10, on est passé à 14, 14 le matin, 14 l'après-midi et 14 le soir.
Vous avez été vaccinée au Pfizer ?
Oui, pas plusieurs, mais deux fois, oui.
C'était à quelle date ?
90% des vaccinés ici viennent pour la troisième dose. Mais la prise de rendez-vous n'a été facile pour personne. Yvonne, 70 ans, et Clémence, 34.
Je me suis dit, je vais me mettre sur le téléphone le matin
Et j'ai dû faire une dizaine de fois le numéro de téléphone. Après, je suis arrivée en musique. Puis bon, j'ai eu une personne.
J'ai réussi à en trouver un en passant par le téléphone d'un collègue qui, lui, n'avait pas de difficulté à se connecter à Doctolib. Alors que moi, j'ai dû attendre des heures avant de pouvoir y accéder. Donc oui, c'était un petit peu difficile.
Et malgré l'accélération, il est impossible encore de satisfaire toutes les demandes, confirme Philippe Pain, le directeur du vaccinodrome de Gerland.
C'est complet jusqu'au 18-19, je crois. On va très vite ouvrir d'autres créneaux de vaccination. Mais en ce moment, c'est assez plein. Ouais.
Le nombre d'injections par jour pourrait être revu à la hausse avant l'ultimatum du 15 janvier pour avoir un pass sanitaire en règle. Lyon, Mathilde Imberti, France Inter.
Et à l'étranger, c'est le maire de New York qui met un coup de pression sanitaire. Bill de Blasio impose la vaccination obligatoire pour tous les salariés du secteur privé. 184 000 entreprises concernées à partir du 27 décembre prochain.
Le premier meeting d'Éric Zemmour au cœur d'une enquête judiciaire.
Le parquet de Bobigny, en effet, a saisi les services de police sur des faits de violence commis à l'intérieur du parc des expositions de Villepinte. Deux séquences intéressent tout particulièrement les enquêteurs. Les violences commises contre une dizaine de militants de SOS Racisme hier soir, victimes de coups et de jets de chaises. Trois de ces militants ont été abusivement mis en garde à vue après avoir été remis à la police par les services de sécurité du meeting relâché ce matin. L'autre partie des investigations concerne l'agression dont Éric Zemmour a été l'objet, une blessure au poignet qui lui vaut, selon son équipe, 9 jours d'ITT. Le suspect, âgé de 27 ans, est lui toujours en garde à vue. Ajoutons que l'équipe du candidat d'extrême droite à la présidentielle affirme ce soir que son déplacement de demain à Lyon est reporté, sans lien toutefois avec sa blessure. Au-delà des violences qui ont marqué ce premier rassemblement zémouriste, l'un des messages politiques du meeting d'hier, c'était de cibler au premier chef le président Macron, qualifié, je cite, de grand vide, d'automate dans un labyrinthe de miroirs, d'adolescent qui se cherche. Macron dans le viseur également de Jean-Luc Mélenchon ou de Valérie Pécresse. Le chef de l'État, cible numéro un donc. Bonsoir Simon Le Baron.
Bonsoir.
Cette pression sur lui va-t-elle pour autant l'inciter à se déclarer candidat plus rapidement?
Et ça lui apporterait quoi? Ce n'est pas moi qui vous répond, Sébastien, ce sont les proches d'Emmanuel Macron quand on leur pose la question, alors que certains trépignent autour du président, c'est vrai, pour qu'il se déclare rapidement et pour qu'il puisse répondre directement à ces attaques.
Emmanuel Macron n'a qu'une seule obsession, c'est plaire. Moi, je n'ai qu'une seule passion, c'est faire.
Personne ne sait qui il est, parce qu'il est personne.
Il doit accepter le débat. Il n'est pas au-dessus de la démocratie.
Eh bien non, Emmanuel Macron n'est pas pressé de descendre dans l'arène. On vient d'entendre dans l'ordre Valérie Pécresse, Éric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon. Pas pressé, non. En tout cas, aucune chance qu'il se déclare avant les fêtes, nous assure ce soir l'un de ses très proches conseillers. La ligne privilégiée reste donc celle-ci, officialiser la candidature le plus tard possible et d'ici là, marteler que le président travaille quand les autres ne font que parler. Ici, c'est l'intérêt général et l'action, pas les intérêts particuliers et le brouhaha, résume l'Élysée. Le chef de l'État d'ailleurs sera ces deux prochains jours dans le Cher et dans l'Allier, précisément pour montrer que lui s'occupe des Français. En clair, Emmanuel Macron est bien installé sur son piédestal présidentiel et il n'a pour l'instant pas l'intention d'en descendre.
Simon Le Baron du service politique d'Inter. À droite, premier déplacement de campagne aujourd'hui de la toute nouvelle figure des LR, Valérie Pécresse, la candidate des Républicains à la présidentielle en visite dans les Alpes-Maritimes. Sur les terres d'Éric Ciotti, son rival au Congrès, déjeuner en tête-à-tête, dépôt de gerbes à Saint-Martin-de-Vésubie, à la mémoire des victimes de la tempête Alex, suivi ce soir d'une réunion publique commune. L'archevêque de Paris a été victime d'une injustice. C'est en tout cas l'avis du pape François qui, pour la première fois, s'est exprimé sur l'affaire Monseigneur Aupetit dans l'avion papal de retour de Grèce. Si le souverain pontife a accepté sa démission la semaine dernière, ce n'est pas parce que l'archevêque aurait éventuellement eu une relation intime avec une femme, ce qu'il nie, et parce qu'il était l'objet de rumeurs qui l'empêchaient, selon le pape, d'exercer ses fonctions pastorales. Les précisions de notre correspondant à Rome, Bruce de Galzin.
Il a d'abord fait une drôle de tête lorsque la question lui a été posée, mais François s'était préparé.
Cosa ha fatto Aupetit?
Qu'a fait Aupetit de si grave pour donner sa démission? Si nous ne savons pas de quoi il est accusé, nous ne pouvons pas le condamner. C'est l'opinion publique, ce sont les commérages qui l'ont condamné. Mais le pape lui-même va se faire l'écho de ce qui est reproché à Monseigneur Aupetit, sans dire un mot de la gouvernance du diocèse alors qu'il était interrogé dessus. Non, il évoque tout seul le sixième commandement, « Tu ne commettras pas d'adultère ». C'est parce qu'il a fait une faute, un manquement contre le sixième commandement, mais pas totalement. Des petites caresses, des massages qu'il faisait à sa secrétaire, c'est de cela qu'il est accusé. C'est un péché, mais le péché de chair n'est pas le plus grave. Au petit est un pécheur, mais je le suis aussi. Ce qui a finalement amené le pape à accepter si vite cette démission, c'est le scandale. Public aussi, trop de rumeurs ont entaché la réputation de Monseigneur Au Petit, qui ne pouvait plus gouverner, a dit le pape. À bord de l'avion papal, Bruce de Galzin, France Inter.
Le pape qui par ailleurs se dit prêt à se rendre à Moscou pour rencontrer le patriarche de l'église orthodoxe russe, une visite qui serait historique du jamais vu depuis le schisme de 1054 entre les deux églises. C'est une décision qui aura peu de conséquences sur l'avenir judiciaire de l'ex-prix Nobel de la paix. La peine d'Aung San Suu Kyi a été réduite de moitié par la junte au pouvoir en Birmanie, 2 ans en ferme au lieu de 4. L'ex-chef du gouvernement birman condamné pour incitation aux troubles publics, mais qui doit encore être jugé dans plusieurs autres procédures.
Pas question de trop se laisser distancer par Elon Musk.
Les Européens, en effet, s'apprêtent à se lancer dans la construction d'une fusée réutilisable, comme la société du milliardaire américain SpaceX et de son lanceur Falcon 9, qui revient sur Terre pour être réparé et relancé. Annonce ce matin de Bruno Le Maire en visite aux Mureaux sur le site de fabrication d'Ariane, le ministre de l'économie qui admet avoir raté le tournant de cette technologie il y a 10 ans. Bonsoir Sophie Becherel.
Bonsoir.
Mais la France qui est déterminée donc à rattraper son retard.
Elle s'appellera Maya, dédiée aux mini et micro satellites 200 à 500 kilos. Cette fusée vise à remettre un peu de compétition dans le monde de l'espace, a dit Bruno Le Maire. C'est surtout un changement de cap pour l'Europe spatiale qui avait jusqu'ici misé sur Ariane 6, le poids lourd de l'espace dont le premier lancement est prévu au premier semestre de l'an prochain. Maya doit décoller, elle, en 2026. C'est très proche. Mais pour le PDG d'Ariane Group, André Hubert-Roussel, l'Europe ne part pas de zéro.
Depuis le lancement d'Ariane 6, on a démarré au même moment le développement de 2 briques technologiques absolument essentielles. La première, c'est un nouveau moteur qui s'appelle Prometheus, dont on va faire l'essai du premier exemplaire l'année prochaine, en tout début d'année à Vernon. Et puis également, c'est le démonstrateur d'étages réutilisables Thémis, donc qui permettra de revenir sur Terre pour pouvoir être réutilisé pour un lancement suivant. Ces 2 développements sont en cours et donc on va capitaliser dessus. Ce seront les 2 briques essentielles pour l'ensemble de la famille, à commencer par ce petit lanceur.
Car c'est désormais d'une famille de lanceurs réutilisables que parle le patron d'Ariane Group. Pour aller vite, il faudra une fusée simple. Reste encore à développer un 2e étage, puis à assembler le tout. Le marché visé est celui des constellations, ces groupes de centaines, voire de milliers de satellites qui visent une couverture complète de la Terre, soit en imagerie, soit en télécommunication.
Sophie Becherel, spécialiste scientifique Inter, merci.
Et on termine avec un mollusque très demandé en cette fin d'année.
J'ai nommé l'huître, incontournable ingrédient d'un réveillon réussi, mais qui parfois manque à l'appel, car elles sont souvent malades, victimes d'un virus, l'herpès des huîtres, qui peut tuer jusqu'à 50 ou même 100% des naissins. Eh bien, bonne nouvelle pour les ostréiculteurs et pour les amateurs du mollusque, 2 experts de l'Ifremer ont trouvé en laboratoire un moyen de lutter contre cette maladie, Sandy Dauphin.
L'herpès virus, les producteurs d'huîtres le redoutent chaque année. La maladie touche surtout les petites huîtres quand elles ont moins d'un an. Il suffit que l'une soit touchée pour qu'elle contamine toutes les autres. Elles meurent bien avant d'arriver dans nos assiettes. L'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, l'Ifremer, a trouvé un moyen de lutter contre le virus apparu en France dans les années 90. Ça ressemble un peu à un vaccin, explique Benjamin Morga, co-découvreur à l'Ifremer.
On ne peut pas parler de vaccination au sens conventionnel du terme chez une huître, car une huître n'a pas d'anticorps et de mémoire immunitaire. En revanche, on va lui donner ce traitement à partir d'un virus inactivé pour lui permettre de stimuler son immunité et donc de se protéger contre une infection virale. Ce sont des travaux innovants qui sont brevetés. Les applications, c'est en cours de discussion et cela demandera du temps.
Ce projet baptisé STAR pour stimulation antivirale des huîtres creuses pourrait changer la donne pour les producteurs confrontés à d'importantes mortalités. Reste à savoir comment l'administrer à grande échelle et si c'est supportable économiquement.
Voilà, nous voilà rassurés. Sandy Dauphin, spécialiste environnement à Inter. Voilà. Si vous aimez les huîtres, évidemment.
Alors pas trop, mais 3 doses pour les huîtres. Donc 3. Merci beaucoup Sébastien. On se retrouve évidemment tout à l'heure tous les deux dans Un jour dans le monde. On ne parlera pas d'huîtres, mais vous nous raconterez notamment comment une station de ski espagnole est en train de revenir à son état naturel, en quelque sorte.